Je voulais commencer aujourd'hui avec une petite genre de publicité. Donc, nous avons ce site. Donc, voilà le site www.123reunion.info. Et sur le site, donc, vous pouvez télécharger ces trois livrets. Donc, un qui concerne le salut en Jésus-Christ, l'autre, la vie nouvelle. Donc, pour les chrétiens, c'est le cheminement chrétien. Et là, il y a un autre qui s'appelle « Réponse de Dieu aux questions des hommes ». Et donc, vous pouvez télécharger ces PDF sur notre site. Je le montre encore, si vous voulez. Donc, ça globalement, ça touche ce qu'on a discuté sur Facebook la dernière fois, donc concernant la purification des péchés, notre besoin, grand besoin de cette purification. Et merci que Dieu a pu faire ça par le Seigneur Jésus-Christ. Après, donc, c'est la question de est-ce que je vais vivre pour le Seigneur ou je ne vais pas vivre pour le Seigneur. Et normalement, le chrétien veut vivre pour le Seigneur. Il veut plaire à son Seigneur. Il a sauvé. Et donc, c'est ce qu'on livre pour la nouvelle vie du croyant. Et bien ça explique ce qui est le cheminement pour les chrétiens. Et l'autre, c'est plein de questions et réponses. La plupart sont des questions que les gens posent avec un verset ou deux qui explique la réponse. Et des fois, c'est simplement une explication de quelque chose. Donc, ils sont très utiles. Donc, comme j'ai dit la semaine dernière sur Facebook, j'ai parlé de la purification. Aujourd'hui, je vais parler de la sanctification, mais j'ai coupé en deux parties. Hein, donc, sanctification, première partie, et la semaine prochaine, Dieu voulant, la sanctification, deuxième partie. Jésus s'est offert en sacrifice pour nos péchés, une fois pour toute l'éternité. Il ne va pas revenir. Il ne va pas se sacrifier une autre fois. C'était fait une seule fois. Et par ce sacrifice, il nous a purifiés pour toujours tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Je vais lire dans Hébreux chapitre 1 et verset 3. Bonjour. Je vais lire dans Hébreux chapitre 1, verset 3. Les enfants peuvent monter si vous voulez. Donc, concernant le Fils de Dieu, nous lisons, le Fils de Dieu a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ça veut dire qu'après Jésus était crucifié, il était enterré dans la tombe pendant les trois jours. Et à la fin de ce temps, il est ressuscité, il est revenu à la vie, il a vaincu la mort. Donc, il peut aussi nous donner la résurrection. Et c'est pour cela aussi que nous savons que Dieu a accepté son sacrifice. Si ce n'était pas accepté, il serait encore mort aujourd'hui. Mais Dieu a bien agréé le sacrifice de Christ. Et donc, c'est pour cela qu'il est ressuscité. Et puis, dans Hébreux chapitre 10, versets 12 et 14, nous lisons qu'après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, eh bien, le Seigneur Jésus s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car par une seule offrande, verset 14, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Dieu s'en est occupé de tout. Nous n'avons qu'à nous reposer en Jésus-Christ. Amen. Dans ces versets disent que tout pécheur, donc tout pécheur qui se confie en Jésus, est pardonné et purifié. C'est l'acte du salut et l'assurance que le salut est éternel. Une telle personne est passée par le fait de croire en Jésus-Christ. À ce moment-là, il est passé de la mort à la vie. Cette personne n'est plus du royaume des ténèbres, mais elle est entrée dans le royaume de lumière. Elle est devenue pour toujours un enfant de Dieu. Cela ne suggère en rien que les croyants soient eux-mêmes mieux qu'autrui. En effet, Jésus a prié pour les croyants parce que nous en avons besoin. Il a demandé à son Père dans Jean chapitre 17, verset 17, donc Jésus dans la prière a dit « Sanctifie-les, donc sanctifie les disciples, sanctifie les croyants, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. » Jésus a prié ceci concernant ses disciples. Donc, nous, on est ses disciples. Nous qui sommes déjà croyants, les croyants ont besoin d'une sanctification continue parce que les croyants ne sont pas parfaits et nous ne serons jamais parfaits pendant notre vie terrestre. Regardez comment tous les disciples ont pris la fuite et abandonné Jésus dans le jardin. C'était les amis de Jésus, c'était les disciples. Parti. Et puis Pierre, par la suite, qui a renié Jésus trois fois. Donc, je pense qu'on n'est pas aussi spectaculaire que les apôtres. Donc ça ne nous étonne pas qu'on va avoir des difficultés et on a besoin de cette purification ou sanctification continue. Jésus a prié pour notre sanctification, pour votre sanctification, pour que nos vies soient vraiment chrétiennes. La sanctification est le processus entre la nouvelle naissance, donc le départ, et la mort, quand vous entrez dans le présent de Dieu. C'est le processus entre ces deux points-là, le processus par lequel le croyant est rendu de plus en plus saint, c'est-à-dire de plus en plus comme Jésus. C'est la direction globale de votre vie. Parce que la vie, hein, ça fait comme ça. Hein, mais globalement, on est en progression. En parlant de ses propres progrès dans la sanctification, Paul a dit dans Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. » Donc vous allez voir, le prix, c'est la vocation céleste, d'être parfait dans la présence de Dieu. C'est ça que Paul dit ici. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté ce prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. » Pour tâcher de le saisir. Saisir quoi? Saisir le prix. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant les choses, ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, hein, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Eh bien, on ne peut aller au ciel que par Jésus-Christ. C'est le seul chemin. Et ceux qui ont confiance en lui iront. Donc, on parle de la sanctification. Et il y a plusieurs mots dans le grec qui sont tous reliés entre eux pour dire la sanctification. Donc, je ne vais pas lire la liste des mots en grec, mais pour dire, les mots signifient en français, donc séparer, délier, consacrer, saint, sainteté, ce genre d'idées. Okay? Bon, la première chose, c'est qu'il faut que nous nous rappelons que Dieu est saint. Dieu est saint. Et je vais vous lire 1 Pierre chapitre 1 et verset 15. 1 Pierre chapitre 1 et verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, donc Dieu, hein? Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. C'est là qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc cette phrase, celui qui vous a appelé est saint, donc fait référence à Dieu, Dieu qui est saint. Par sa nature, Dieu est séparé
de tout péché. Il est séparé de tout souillure.
Et la semaine dernière, sur Facebook au moins, j'ai parlé de ces souillures dans la nature humaine. De même, là où Dieu habite, la demeure éternelle est sainte. Et nous lisons dans Apocalypse, chapitre 21 et verset 10, donc je vais lire que la deuxième moitié du verset. Et il me montra la ville sainte. Donc, on l'a déjà défini, c'est une ville sainte. La ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Puisque notre Dieu est saint, puisque votre Dieu est saint, vous aussi soyez saints, il dit, dans toute votre conduite. Donc, vous imaginez, Dieu ne peut pas dire, soyez un peu sale, péchez un peu. Dieu ne peut pas dire ça. Il doit nous exhorter à une perfection totale. Ça ne veut pas dire qu'on va arriver. Paul l'a déjà dit, il n'est pas arrivé. Pourtant, il a fixé le but, l'objectif de faire effort, d'agir dans ce sens pour avoir une certaine perfection, même s'il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole, vous serez saint, car je suis saint. Voilà, ça fait des fois conflit dans nos êtres, parce que nous savons que Dieu veut qu'on soit saint. Et pourtant, on ne l'est pas. N'est-ce pas? Donc, on sait la volonté de Dieu, on connaît aussi la réalité humaine. Et Dieu est au courant de tous les deux aussi. Une chose ou une personne peut être sanctifiée, c'est-à-dire consacrée ou séparée des autres choses ou des autres personnes pour une utilisation précise ou préparée, donc dans notre contexte, par Dieu. Dans ce cas, elle est réservée à cette fin. Elle est mise à part pour une utilisation spéciale. Le croyant en Jésus est saint. Il est sanctifié par Dieu. Il est consacré à Dieu. Il est séparé. Dieu le voit séparément du monde des pécheurs. C'est un croyant là et c'est le monde des pécheurs là. Dieu nous voit à part. On est réservé pour Dieu. Le croyant appartient à Dieu. Il est dédié à Dieu. C'est tous des façons pour dire il est saint. Ainsi, la Bible appelle les croyants les hagioi, c'est-à-dire les saints. Et souvent, quand Paul écrit, j'écris aux saints dans la ville d'eux. Hein? Parce que ce sont des hagioi, ce sont des saints, ce sont des chrétiens. Vous qui croyez en Jésus-Christ, vous êtes les saints. Pourquoi? Parce que vos péchés ont été pardonnés grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Il faut quand même distinguer trois niveaux ou trois nuances de sanctification. Première nuance ou première utilisation de ce mot, c'est le début de la sanctification, c'est le statut. Le croyant est déclaré saint par Dieu. Donc le moment qu'une personne croit en Jésus-Christ, il est déclaré saint. On a déjà parlé de ça. Le second sujet que je vais dire, c'est la troisième nuance en fait, c'est le but final de la sanctification. On a cru en Jésus pour être sauvé. Et c'est sûr qu'on sera sauvé. Et entre les deux, pendant notre marche ici-bas, quand on se fâche avec l'un ou on monte sur l'autre. Hein? Donc, le but final de la sanctification, le croyant est destiné à être rendu parfaitement saint. Et puis, le progrès, troisième, donc c'est la partie au milieu, le progrès terrestre de la sanctification en vue de l'état éternel. Le chrétien est exhorté à vivre comme enfant de Dieu, qu'il est d'ailleurs devenu par sa foi en Jésus-Christ. Donc, je vais expliquer un peu ces trois points.
premier point, c'est le début de la sanctification. Le statut, le croyant est déclaré saint. Et je répète, ceci est un statut légal. C'est déclaré par Dieu. Donc je vais lire dans Hébreux chapitre 10 et verset 10. Hébreux chapitre 10 et verset 10. C'est en vertu de cette volonté, donc la volonté de Dieu, okay? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Dieu n'a pas besoin de notre aide, n'a pas besoin de l'aide des églises baptistes, ou des églises presbytériennes, calvinistes, ou catholiques, ou orthodoxes, ou autres églises, autres religions, autre chose. Jésus a tout fait. Il s'est offert une fois pour toutes. Et c'est par la volonté que Dieu nous, volonté de Dieu que Dieu nous a sanctifiés. Depuis la nouvelle naissance, le nouveau croyant est déclaré saint. C'est une déclaration de Dieu. S'il a mis un tampon sur vous, il est sanctifié. Dieu ne le considère plus comme l'ancien pécheur, mais comme le nouveau saint, comme son enfant. Dieu enregistre l'acte de nouvelle naissance dans son livre. Il appelle le livre de vie. Dans la Bible, ça s'appelle le livre de vie. Ainsi, le croyant a obtenu une nouvelle position devant Dieu en Jésus-Christ. Le statut de saint. Avant, c'était pécheur, condamné. Cette position ou ce statut n'a rien à voir avec les sentiments. Comme votre statut de nationalité n'a rien à voir avec vos sentiments. Aussi, votre statut de saint n'est pas une question de conduite, comme votre nationalité n'est pas une question de conduite. Votre nationalité est une question d'identité. De même, le statut de saint est une question d'identité. En croyant en Jésus-Christ, vous êtes devenu un enfant de Dieu, vous êtes saint. C'est votre identité en Jésus-Christ. Le croyant est entré dans une relation spéciale avec Dieu. Il appartient à Dieu. Il est devenu un enfant adoptif, bien sûr. Vis-à-vis de Dieu, le croyant est séparé de tous les non-croyants. Il n'est plus sous la colère de Dieu. Avant, en tant que pécheur, il était sous la colère de Dieu. Et c'était certain qu'il allait être en enfer pour l'éternité. Mais en croyant en Jésus-Christ, Dieu a effacé tout ce qui était contre nous. Amen.
Amen.
Le croyant est réservé, consacré à Dieu. Il est saint. Donc, la seconde nuance dont j'ai mentionné tout à l'heure, c'est le but final de la sanctification. Le croyant est destiné à être rendu saint, dans le sens éternel. Par le salut en Jésus-Christ, le destin éternel du croyant est prédéterminé. C'est ce mot-là, prédéterminé. Attention, je n'ai pas dit que Dieu a prédéterminé qui sera croyant. Non, Dieu a prédéterminé que tous les croyants seront rendus saints et gardés pour l'éternité. C'est comme le TGV Bordeaux-Paris. Le SNCF a prédéterminé, ils ont mis les rails, hein? Le TGV Bordeaux-Paris ira à Paris. Okay? Le SNCF a prédéterminé que le TGV de Bordeaux aboutira à Paris. Ceux qui veulent prendre le train à Paris, ils entrent dans ce train-là et le train les emmène à Paris. Jésus est comme le TGV Bordeaux-Paris. Tous ceux qui veulent aller au paradis céleste entrent en Christ et Christ les amène au ciel. La Bible utilise cette illustration sous la forme de l'arche de Noé. Jésus est l'arche et sauve de la destruction tous ceux qui entrent en lui. Tous qui entrent dans l'arche de Jésus seront sauvés à travers le déluge, à travers la destruction. Sauvé par le Seigneur Jésus-Christ, le croyant sera auprès de Dieu au ciel pour l'éternité. Je vais lire dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, versets 1 et 2. C'est un de mes passages préférés. Mais je vais parler de verset 3 aujourd'hui, mais juste de Jean 14, versets 1 et 2. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Et Jésus dit, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça parle du paradis céleste, la nouvelle Jérusalem. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc Jésus est en train d'affirmer que c'est la vérité. Croyez à ce que je vous ai dit. Ayez confiance en Dieu, ayez confiance en moi. Il dit, je vais vous préparer une place. Jésus est là aujourd'hui en train de préparer pour chacun d'entre nous une place céleste, éternelle. Amen.
Amen.
Le croyant sera conformé à Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu va nous transformer au moment de notre mort et on entre dans la présence de Dieu. Dieu va nous conformer à la personne de Jésus-Christ, le caractère de Jésus-Christ. Je vais lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et versets 16 et 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Qui va descendre? Le Seigneur Jésus. Le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ça, c'est les apôtres et puis les chrétiens depuis le 2e siècle, 5e siècle, 18e, 19e, 20e, et même nous, si on décède, n'est-ce pas? Eh bien, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants. Donc évidemment, Paul dit « nous », parce qu'il voulait faire partie de ce groupe-là. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Donc, pour les décédés, il sera parti du premier groupe. Mais nous, les vivants, si Jésus revient aujourd'hui, c'est nous. Amen. Hein? Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur, sans péché. On ne peut pas être dans la présence de Dieu pourri. Ça n'existe pas. Je vais lire aussi dans Philippiens, chapitre 1. Philippiens, chapitre 1, c'est le verset 23. Et c'est la seconde moitié du verset. Okay? Donc, j'ai sélectionné les moitiés des versets aujourd'hui parce que je voulais raccourcir un petit peu le temps, puisqu'on va faire le repas du Seigneur par la suite. Philippiens chapitre 1, verset 23, la deuxième moitié. Je les désire de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Donc, Paul exprime son désir. Ce n'est pas qu'il veut mourir, mais c'est qu'il veut être dans la présence de Dieu. Okay? Mais voilà, même si on a hâte d'y aller, il y a pas mal de choses que nous avons à faire ici-bas. Donc, voilà. Si Dieu a ça que vous devez faire, faites-le. Et quand vous avez fini, bah, peut-être vous allez partir. Mais vous avez quelque chose à faire. Et c'est dans ce temps-là que vous avez quelque chose à faire. C'est là le sujet de la sanctification. OK? Je vais lire aussi dans Apocalypse, chapitre 21. Et là, c'est pour dire que au ciel, le croyant sera sans péché. Okay? Dans Apocalypse, chapitre 21, au verset 27, nous lisons, il entrera chez elle. Chez elle, c'est la ville sainte. C'est la Nouvelle Jérusalem. c'est le paradis céleste. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Donc, le péché ne peut pas accéder au ciel. Et donc, il dit par la suite, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est-à-dire tous ceux qui étaient convertis à Jésus, qui ont eu leur péché, leur saleté, leur souillure, tous effacés, le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Et au moment qu'on a cru, Dieu nous a écrit dans le livre de vie. C'est avec une encre qu'on ne peut pas effacer. Pour toujours. Et dans lavé de tous nos péchés, et étant inscrit par Jésus dans son livre de vie, il nous autorise d'entrer dans la ville sainte céleste. C'est Dieu qui nous laisse entrer. Grâce à Jésus. Maintenant, je voudrais lire dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Donc, le grand contexte, c'est le verset 48 à 58. Okay? On ne va pas lire tout ça, mais si vous voulez chercher plus tard, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 48 à 58. Et je vais lire seulement verset, la seconde moitié, le verset 49 et le verset 57. Donc, dans ces versets, le Seigneur promet aux croyants d'aller au ciel. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49, la seconde moitié, nous porterons aussi l'image céleste. Comme on était les êtres humains mortels, eh bien, nous serons les êtres, on va dire humains, mais immortels dans la présence de Dieu. Quoi qu'il puisse arriver dans la vie, la vie n'est pas toujours belle, n'est-ce pas? On connaît tous les choses qui arrivent, les mauvaises choses, les choses que nous faisons, les choses que les gens fassent envers nous. Quoi qu'il puisse arriver dans la vie, le Seigneur nous assure la victoire car Jésus a déjà vaincu. Il a déjà vaincu. Nous lisons dans verset 57, donc 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est important, ces phrases, parce que quand on lit les messages aux sept églises, il dit « Celui qui vaincra. » Il dit « Oh, je ne sais pas si je vais arriver. » Mais voilà, vous ne comprenez pas. Il dit que Jésus a déjà vaincu à votre place. Vous avez vaincu. Donc, ce sont des affirmations et non pas des mises en garde. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Ce sont les affirmations. Celui qui vaincra aura ces choses-là, ces choses-là, ces choses-là. Et Jésus a vaincu. Donc, vous allez avoir tout ce que Dieu a promis. Sur la base de ces promesses fidèles, le Seigneur nous exhorte à vivre ici-bas, ayant nos yeux fixés sur l'éternité. Et là, c'est dans le verset 58 de ce même chapitre. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Ainsi, puisqu'on a cet superbe avenir, qu'il a parlé de la résurrection et tout ça, ainsi, mes frères, soyez fermes. Soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux. C'est un progrès. Ça peut aller mieux. De mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, ayant cette espérance céleste éternelle, nous sommes exhortés à vivre ici-bas en conséquence, c'est-à-dire une vie vraiment chrétienne, une vie de sanctification, une vie consacrée à Dieu. Donc là, on va parler un petit peu de la sanctification dans le sens progressif, ce qui se passe dans nos vies. Donc on a parlé de première phase, et on a cru en Jésus, Dieu nous a tamponné. Il m'appartient, il est mis à part, il est saint. Et il a promis que quand on meurt, on sera dans la présence de Dieu, dans toute la sainteté, pas de souci, pas de problème. Mais entre les deux, c'est notre problème. Hein, c'est ça. On entre dans ce sujet-là. Troisième partie. Entre la nouvelle naissance et l'entrée dans le paradis céleste, le chrétien est voyageur sur la terre. Pèlerin. Il chemine vers le ciel. Ayant toujours en vue l'état éternel, le chrétien est exhorté à vivre comme l'enfant de Dieu qu'il est devenu par le salut en Jésus-Christ. Donc le chrétien progresse. Il progresse volontairement, hein, de bon cœur, dans sa sanctification. Je vais lire dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3. On va lire 3 versets. 2 Pierre chapitre 3, versets 11, 12 et 13. De Pierre chapitre 3, verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, donc là Dieu parle de la fin de l'univers. Et nous, on sera dans la présence de Dieu. Donc globalement, il va dire, il ne faut pas être trop attaché ici parce que tout va disparaître. C'est comme le sol dans le magasin, tout doit disparaître. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Qu'elles ne doivent pas, donc il y a la phrase là-dedans, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Dieu veut, donc il pose la question, donc ça veut dire que Dieu veut qu'on réfléchisse. Il veut qu'on trouve la réponse. Hein, c'est pas que voilà, il dit, réfléchissez un petit peu. Si tout va disparaître, et je vous promets, un éternel glorieux dans les lieux célestes. Alors, lequel est plus important? Hein? Dieu veut que nous réfléchissions à l'utilisation de notre vie sur la terre. Donc, je vais lire dans 1 Pierre chapitre 1 et le verset 17. 1 Pierre chapitre 1, le verset 17. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, c'est-à-dire le temps que vous êtes sur la terre. Aussi, dans 2 Corinthiens chapitre 7 et verset 1, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc, je reprends cette phrase. Bien-aimés, purifions-nous. Purifions-nous. Donc, c'est à moi de me purifier. C'est de vous purifier dans votre vie quotidienne de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant donc votre sanctification. La conduite de celui qui appartient à Dieu doit être sainte. Notre vie quotidienne doit être la mise en pratique de l'enseignement de Jésus. Rappelez-vous que Jésus a prié quand Jean 17, 17, sanctifie-les. On sait ce que Jésus veut de nous. Des fois, on dit, mais qu'est-ce que Dieu veut de moi? Ah ben voilà. Sanctifie-les. Jésus veut que vous soyez sanctifiés. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Donc, Jean chapitre 14, 15, 16, 17, c'est tous à propos du Saint-Esprit. Jésus va être crucifié, il va partir, il va envoyer le Saint-Esprit qui va vivre dans les croyants. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, le chrétien va avoir une amélioration croissante dans son caractère tout au long de sa vie. Un croyant désire plaire à Jésus, bien qu'il sache que la perfection est impossible. Comme Paul a dit, c'est pas possible, je ne suis pas arrivé à la perfection. Et vous non plus, vous n'allez pas arriver. C'est impossible à cause de la nature pécheresse toujours présente ici-bas, n'est-ce pas? Ainsi, la vie quotidienne est une tension entre la réalité de la vie et l'idéal que Dieu nous enseigne. Quand vous manquez la cible, ne soyez pas découragé. Reconnaissez vos fautes, vos torts, vos péchés pour pouvoir progresser. Le Seigneur a promis, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et puis juste avant, il avait dit, le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors pour terminer le message, je vais regarder quelques versets qui parlent de la sanctification. Je vais faire quelques petits commentaires. Et puis, on va reprendre ces versets, pas les mêmes versets, mais d'autres versets qui parlent de la sanctification la semaine prochaine. Donc, le premier verset, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Donc, sanctifié et être appelé à être saint, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc on voit cette phrase, qui ont été sanctifiés. C'est dans le passé. On était sanctifiés, c'est déjà fait. Dieu nous considère déjà saints, grâce, non pas à vous, mais grâce à Jésus. Ok? Maintenant, on va regarder le même livre, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17. Chapitre 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Il est dit, vous êtes saint. Il dit, vous êtes le temple de Dieu. Okay? Donc, Dieu réside en nous par son Saint-Esprit. Nous sommes donc chacune, un temple du Saint-Esprit. Nous avons donc des bonnes raisons de vivre en conformité avec le Dieu qui est en nous. Sinon, comme le texte dit, si nous vivons en contradiction avec le Dieu qui est en nous, eh bien, Dieu aura raison et nous serons misérables et malheureux. Okay? Donc, on va faire attention qu'on ne gaspille pas ce que Dieu nous donne. Aussi dans 1 Corinthiens, cette fois-ci dans chapitre 15, versets 33 et 34, 1 Corinthiens 15, 33-34, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Donc je reprends avec cette phrase, quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Alors, ça pourrait vouloir dire qu'il y a quelques gens dans l'Église qui ne sont pas sauvés. Et donc, pour le dire à votre honte, pourquoi vous recevez les non-croyants dans l'Église? Okay? Ou ça pourrait dire qu'il est peut-être mieux, je ne sais pas. Mais le fait, c'est que malheureusement, il y a des chrétiens qui ne suivent pas les conseils de Dieu. Ils ne vivent pas la vie chrétienne. Il ne vit pas comme les chrétiens, il vit comme le monde. Et donc, ce verset pourrait dire que ça peut arriver aux chrétiens du fait qu'ils ne connaissent pas encore bien la personne de Dieu, que Dieu est saint. C'est simplement, oh, il est là, il est mou, et puis il est tout amour, il fait tout ce que je veux. Ah. Et maintenant, Dieu est Dieu et il ne va pas changer. Il était toujours comme il est, il sera toujours comme il est. Et nous devons connaître lui comme il est pour être agréable à lui. Il est convenable, le verset dit, il est convenable que nous les chrétiens vivent comme les chrétiens. Nous ne devons pas pécher comme les autres. Il dit, ne péchez pas. Ok? C'était peut-être mon point même. Ne péchez point. Pas même une fois. Hein? Bon, Hébreux chapitre 13, on va lire le verset 12 et 13. Hébreux chapitre 13 et le verset 12 et 13. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, donc à Jésus, en dehors de la ville, hors du camp, en portant son opprobre. Opprobre, c'est l'humiliation. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir, donc la ville céleste. Regardons encore cette phrase. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Cette phrase invoque notre volonté. Il dit, je vous encourage à sortir avec Jésus. Ayons la volonté d'être différente. C'est ça. Être un chrétien, c'est être différente. On peut avoir tout le monde pareil, tout le monde homologué, et ben voilà, il y a un chrétien. Il est là. Et il est visible. Pourquoi? Parce qu'il est debout, les autres sont tous en train de se baisser. Ok? C'est ça. Ayez la volonté d'être différent. Jésus a été humilié pour nous. Ne devons-nous pas supporter un peu de humiliation pour lui? C'est ça, le verset dit, allez hors de la ville à lui, allez vers lui en dehors de la ville. Et puis, je crois que c'est le dernier verset maintenant. Oui. Donc, c'est 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 11. Donc, dans le contexte, Paul parle des péchés des gens avant d'être chrétiens. Il y a toute une liste, longue liste de péchés. Et puis, Paul insiste dans le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 11, mais vous avez été lavés. Donc ça revient au message de la dernière fois, la purification. Vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Ça c'est le texte aujourd'hui. Hein? Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Pardonnez. Purifié, justifié, et maintenant habité par le Saint-Esprit. Sur la base de ces versets, donc, dans les versets 19 et 20, vont dire, donc, Paul raisonne avec nous, et nous encourage à vivre une vie de sanctification, de vivre une vie, une véritable vie de chrétien. Il dit au verset 19, c'est le même chapitre, chapitre 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps et le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, donc c'est Dieu qui a mis son Saint-Esprit en nous, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ah ben non, je n'appartiens pas à Dieu, je m'appartiens à moi. Depuis que vous avez cru en Jésus-Christ, vous appartenez à Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc, hein, c'est là, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui, tous les deux, appartiennent à Dieu. Donc, je vais continuer la prochaine fois sur les versets comme ça, qui parlent de sanctification. Je vais rajouter d'autres choses, bien sûr. Mais pour aujourd'hui, on va arrêter là. Je pense que